Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Il y a 60 ans, jour pour jour, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement adoptaient la charte créant l'Organisation de l'Unité Africaine. Durant les 20 prochaines minutes, nous allons donc tous ensemble dresser un état des lieux de cette institution continentale qui, entre-temps, certes, a changé de nom. En 2002, l'organisation a été rebaptisée Union Africaine, l'UA, conçue sur le modèle de l'Union Européenne. En tout cas, en 1963, à la création de l'OUA, le continent sortait des indépendances. Des leaders comme le Ghanéen Kwame Nkrumah, l'Éthiopien Haïlé Selassie, le Guinéen Ahmed Sékou Touré ou encore le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, tous ces leaders plaidaient pour que l'Afrique s'émancipe des anciens colonisateurs, que les Africains prennent en main leur propre destin. En substance, l'esprit des pères fondateurs de l'OUA, c'était l'union, l'unité pour promouvoir la solidarité du continent contre toutes les formes d'impérialisme. Alors, 6 décennies plus tard, que reste-t-il de ce projet, de cette ambition? L'organisation est-elle à la hauteur de vos attentes? Et j'aimerais évidemment vous entendre sur l'avenir de cette institution, l'Union africaine. 33 9 693 693 70 et vos commentaires, ils sont nombreux. Il y a par exemple Béranger qui est au Congo qui nous dit « L'UA est un club de dirigeants incapable de se prendre en charge, dépendant de l'aide financière de l'Union européenne et de la Chine. David, au Togo, l'organisation n'est pas à la hauteur de mes attentes. Coup d'État au Mali, Burkina Faso, Guinée, insécurité dans l'Est de la RDC, Érythrée, Soudan. L'Union africaine a démontré son inefficacité face à toutes ces crises. » Bonjour Fidel.
Bonjour Yohan.
Vous êtes à Brazzaville. Êtes-vous tout aussi critique que les deux auditeurs que je viens de citer à l'instant?
Très critique. Très critique. Parce que l'OUA a commencé d'abord avec des divergences. Ils ne se sont pas accordés. Il y avait des fédéralistes, il y avait les partisans de l'Afrique des États, et c'était déjà un mauvais départ. Et l'OUA, l'OUA que nous avons tamponné, ainsi de suite, mais nous nous sommes rendus compte que c'était un instrument de... une autre forme de la colonisation. Maintenant, il fallait regrouper des gens. Parce qu'en fait, chaque fois que l'OUA se réunissait, il y avait toujours un représentant de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était pour donner les ordres. Vous allez voir que dans quelques années, plus tard, tous les pays africains vont prendre une décision de ne plus collaborer avec l'Israël. C'était des groupements qui se font comme ça. Juste à ce que le Maroc puisse démissionner de l'Union africaine parce qu'on avait accepté que le Sahara occidental soit membre. C'est des choses qui ne se sont pas accordées. Oui. L'OUA était incapable de gérer les conflits parce que la pression de l'Occident était très forte et que c'était l'Occident en réalité qui dirigeait l'OUA et non les pays africains.
Et vous diriez la même chose aujourd'hui, Fidel, s'agissant de l'Union africaine?
Ce n'est qu'un nom qui a changé, mais les institutions restent les mêmes. Ils n'ont rien changé. À l'époque de Thomas Sankara, il a fustigé le comportement de certains chefs d'État africains qui pouvaient prôner l'indépendance de l'Afrique, mais étaient membres des partis politiques européens. Je prends le cas de Oufouette Boigny, qui était membre d'un parti politique français, les Senghor, c'était la même chose. Voyez-vous? Donc, en fait, les chefs d'État qui ont, les pères qui ont créé cette institution avaient une ambition autre. Mais la pression de l'Occident était tellement très forte que l'Afrique n'a pas pu atteindre ses objectifs.
Et donc vous êtes finalement déçu 60 ans après. Fidel, en deux mots, aurait-il fallu en 1963 créer les États-Unis d'Afrique?
En fait,
est-ce que vous pensez que ça aurait changé le cours de l'histoire?
Oui, c'était en fait la bonne vision, c'était la vision de Kadhafi. Et c'est ça ce qui a coûté sa mort.
Oui. C'est la vision de Kadhafi. Excusez-moi, Fidel, c'est la vision de Kadhafi en 2005, 2010, 2009. Mais avant, c'était surtout la vision notamment de Kwame Nkrumah. En tout cas, il aurait fallu à ce moment-là adopté une résolution créant les États-Unis d'Afrique. On va donner la parole à d'autres auditeurs. Je vous le disais, le sujet suscite de nombreuses réactions. Il y a Voltaire qui nous dit que ce soit l'OUA ou l'UA, ce ne sont que des coquilles vides. Voltaire qui nous écrit du Cameroun. Boubacar, au Mali, il affirme que les objectifs recherchés sont loin d'être atteints. Le bilan est décevant car l'Afrique souffre aujourd'hui de tous les maux. Sous-développement, insécurité, mauvaise gouvernance, la liste est longue. Voilà comment conclut Boubacar de Bamako. Mamadi, bonjour.
Bonjour, Anne.
À Conakry, en Guinée, quel bilan dressez-vous de l'institution continentale ?
D'abord, je souhaite joyeux anniversaire à tous les États africains, ça il faut le dire, malgré qu'on ne fête pas. Ce qu'on profite seulement de 25 mai, c'est chômer et payer presque dans tous les États africains. Au-delà de ça, il n'y a absolument rien. Il faut reconnaître que les hommes politiques à la tête de cette grande organisation ont complètement échoué. Il faut vraiment passer la main aux âmes de la société civile. Seuls, maintenant, les activistes de la société civile peuvent vraiment répondre aux attentes des États africains. L'idée de Sékou Touré, l'histoire donne aujourd'hui raison à Sékou Touré, raison aujourd'hui à Thomas Sankara, raison aujourd'hui à Kwame Nkrumah, qui avaient l'idée de faire une fédération. C'était ça l'idéal qui pouvait vraiment profiter.
Mais bien sûr, mais excusez-moi, Mamadi, je vous titille un peu et on est là pour dialoguer, réfléchir ensemble. C'est bien facile de dire cela en 2023. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On était en 1963. Il y a une trentaine de pays indépendants, une vingtaine qui aspirent à le devenir. Les pays indépendants sont tout jeunes. Ils ont une jeune souveraineté que les chefs d'État à l'époque n'ont pas envie de lâcher. Et ça peut se comprendre. Non.
Mais Juan, les États-Unis, c'est pas comme ça qu'ils se sont réunis. C'est petit à petit, les États-Unis ont pu quand même former les 50 États. Ça pouvait être la même chose en Afrique. Si l'Afrique était unie comme les États-Unis aujourd'hui, mais on allait être plus fort. Nous sommes là à mendier. La Chine qui est un pays, tous les États africains aujourd'hui se dirigent vers la Chine pour émaner de l'argent. Et si on a des conflits, aujourd'hui, le cas de Soudan est un exemple. Il fallait que l'Arabie Saoudite vienne au secours. Le coup d'État est partout en Afrique. L'Union africaine ne fait rien pour ça. Et on condamne le troisième mandat en Guinée pendant ce temps. Ouattara le fait, il est soutenu. Togo le fait, il est soutenu. Mais voilà la cacophonie. Donc la solution aujourd'hui, il faut confier cette institution aux activistes de la société civile qui ont prouvé aujourd'hui leur volonté à l'unité africaine, leur volonté à l'autosuffisance alimentaire, leur volonté à la richesse. Nous sommes riches, on a tout, on peut se développer sans aller quémander.
Bon, donc nous pouvons même faire ce que je retiens, Mamadi, ce que je retiens surtout, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, il faut laisser à la société civile la direction de l'Union africaine. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres auditeurs. En tout cas, on vous attend au standard. 33 9 693 693 70. Aubert nous a écrit de Yaoundé. Il qualifie l'organisation de « machin ». Pour reprendre la formule de De Gaulle. Aubert, bonjour.
Bonjour.
Alors, quel regard portez-vous sur ce machin ?
Et ça, c'est vraiment, je porte vraiment un regard négatif. Je ne vois même pas un bilan qui est vraiment à noter, même dans leur travail durant toutes ces années.
Oui. Et pourtant, je vous rappelle qu'à l'époque, l'objectif de l'OUA, c'était de décoloniser le continent.
Non, mais c'est n'importe quoi. C'est des paroles seulement. Il n'y a même pas de choses concrètes.
Mais Aubert, Aubert, vous m'avez coupé la parole, comme j'ai tendance à le faire souvent, parfois avec les auditeurs, je le reconnais. Mais Aubert, vous pouvez pas. Il n'y a plus. Enfin, aujourd'hui, tous les pays sont indépendants. Sur le continent africain, ça a été un objectif atteint, cela.
Non, mais indépendance, quand on parle de l'indépendance, ce n'est pas de la manière que l'Afrique doit dire qu'elle est indépendante. Qu'est-ce qui montre qu'on est indépendant ? Rien ne dépend de notre volonté, rien ne dépend de nos dirigeants, et rien ne dépend de nos organisations civiles. Tout dépend de l'Occident. Comment peut-on dire qu'on est indépendant ? Nous ne sommes pas indépendants dans ces sens-là, nous ne sommes pas indépendants. Ça, c'est un autre débat. Mais maintenant, l'Union africaine, là, moi, je vois carrément, ce n'est même pas une organisation africaine. C'est une organisation dirigée par les Occidents. Ça là, c'est sûr. Parce que quand il y a un événement en Afrique, avant que l'Union africaine décide, on voit d'abord la réaction des Occidents ou des États-Unis avant qu'ils sortent leur décision.
Ouais, Aubert, c'est intéressant. Vous caricaturez un peu, mais c'est intéressant, évidemment, d'entendre votre perception dans la manière dont les responsables de cette institution prennent leurs décisions. Vous avez l'impression qu'ils ont besoin du feu vert de leurs partenaires occidentaux. Mais il y a une question qui est souvent revenue, et d'ailleurs je ne sais pas où on en est aujourd'hui exactement, sur le financement de l'Union africaine. On entendait il y a quelques années la volonté des pays africains de sortir de la dépendance vis-à-vis des contributions extérieures. 50 à 60% du budget de l'Union africaine provient de l'Union européenne et de la Chine également. Tant que l'institution ne sera pas indépendante financièrement, on ne pourra pas parler d'indépendance donc.
Oui, moi c'est Léonard Foucault, c'est Tolina. Et pour revenir de tout ce que tu as dit, ce n'est pas possible pour dire que notre organisation est financée par les Occidents. C'est toujours l'incapacité. Comment peut-on dire qu'avec tout ce que l'Afrique détient, elle n'arrive pas à financer ces organisations? Ça, c'est un manque de leur part plutôt. Ce n'est même pas un manque de. Ce n'est même pas une aide. C'est plutôt leur manque. Comment peut-on comprendre avec tout ce que l'Afrique détient là, elle est encore financée.
Ouais, vous comprenez pas que les États ne puissent pas eux-mêmes financer et apporter chacun les contributions nécessaires, puisque chaque pays doit verser un pourcentage pour le fonctionnement de l'institution panafricaine. Bonjour Ambroise.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Cachan.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Cachan.
Oui.
Voilà, vous nous écoutez. Merci. Vous parlez d'échecs,
toujours.
Vous aussi.
Ah mais ça alors là, mon prédécesseur vient d'exprimer un tout petit peu ce que j'ai dans le cœur. Comment vous pouvez me dire que Poutine organise la conférence Russie-Afrique? Vous les voyez, ils vont se mettre en rang en tendant la main comme des quémandeurs dans les rues de Paris. La Chine organise une conférence Chine-Afrique, ils sont là-bas, ils sont alignés comme des mendiants. L'Europe organise, ils sont alignés là comme des mendiants. Ils ne sont pas capables de financer l'organisation, il faut toujours aller tendre la main. Ce n'est pas possible. 60 ans après, moi je me rappelle, hein, il y a quelque temps vous aviez organisé ce genre de débat, et je vous disais ce jour-là, une fois de plus, que l'Afrique, cette organisation-là, c'est une congrégation de présidents africains qui se congratulent le dos. Et comme le disait l'un de mes prédécesseurs, vous ne pouvez pas comprendre que des gens changent de mandat. On crie à rose sur la Guinée. Pendant ce temps, Alassane Ouattara fait son troisième mandat. Le Togo est à côté. Au Cameroun, on a 45 ans, je ne sais plus, 40 ans d'existence. Au Congo-Brazzaville, à qui peut-on parler?
Oui. Et donc, vous avez l'impression que cette institution, elle est déconnectée des réalités, en tout cas des attentes de la population?
Elle n'a jamais fonctionné depuis que les pères fondateurs, à l'exception de deux, parce que c'était déjà la gangrène en ce moment-là, j'ose même me permettre de les citer, il y avait Oufouet Boigny et Léopold Sédar Senghor. Ils avaient la bonne idée au départ, mais comme c'est des gens qui étaient inféodés à la France à l'époque, ils ne pouvaient pas prendre des décisions sans en référer à la France. Donc il y a un problème fondamental en Afrique.
Ambroise, ça c'était à l'époque. Oui. Aujourd'hui, les choses ont changé, non?
Non, ça n'a pas changé, Juan. Je viens de vous citer là, lorsqu'on organise cette conférence auxquelles ils vont assister en tendant la main comme de vulgaires mendiants dans les bouches de métro à Paris. Ce n'est pas normal. Hein, l'Afrique est riche. L'unité est où? Elle est où? Alors que... Regardez, je vais vous prendre un dernier exemple.
Un dernier, hein, parce que d'autres auditeurs s'impatientent au standard.
Un dernier exemple. Nous voulons avoir une place au Conseil de sécurité. L'Afrique du Sud lève le doigt, le Nigeria lève le doigt, le Maroc lève le doigt. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Il n'y a rien.
Et donc, vous, par exemple, là, il n'y a pas d'unité.
Il n'y en a pas. Ouais. Ça n'a jamais existé.
Alors
Kwame Nkrumah avait une idée.
Oui, alors allez-y. L'idée de Kwame Nkrumah, et j'accueille d'autres auditeurs très vite.
Oui, les Kwame Nkrumah avaient une idée. Vraiment, à l'époque, je peux dire que c'était quelque chose de formidable. Aujourd'hui, nous vivons ce qu'on appelle pratiquement, c'est apocalyptique ce que vit l'Afrique.
Ouais. Et l'idée de Kwame Nkrumah, c'était de créer les États-Unis d'Afrique.
Oui, voilà. Oui, mais en fait, elle était noble. Elle était noble, ils avaient une exigence, et cette exigence a été bafouée dès le départ par leur congénère.
Bon.
Voilà, c'est tout.
C'est tout. Bah, ce sera le mot de la fin. Merci Ambroise d'avoir été avec nous. Bonne journée. Adam, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à toute l'équipe de votre émission.
Merci, vous êtes à N'Djamena.
Oui, tout à fait.
Et vous disiez au Standard, bilan mitigé, voire même négatif.
Oui, absolument. Mitigé dans la mesure où, avec l'idée des pères fondateurs, évidemment, c'était la décolonisation de beaucoup de pays africains. Ici, là, les objectifs sont presque atteints. Mais s'agissant de l'Union africaine en tant qu'organisation continentale, elle a absolument échoué dans la mesure où elle n'a pas les moyens de sa politique. Parce qu'il nous souviendra que quand il y a des événements en Afrique, dans des pays africains, quelles que soient les résolutions prises, quelles que soient les sanctions qui sont décidées, elles ne sont plus, n'est-ce pas, productives. Donc c'est en cela que j'ai dit l'Union africaine a un bilan tout à fait négatif.
Quand vous dites que les décisions ne sont pas productives, il y a Rama qui nous écrit du Sénégal, elle nous dit par exemple sur les coups d'État qui gangrènent le continent, l'organisation ne fait que des condamnations de principe.
Oui, c'est cela, parce que chaque fois, Conseil de sécurité se réunit, des décisions sont prises, des sanctions sont décidées, mais malheureusement, elles ne sont pas applicables dans la mesure où l'IA n'a pas les moyens de ses prétentions.
Et Adam, puisque vous êtes à N'Djamena, je viens juste de faire le lien, excusez-moi, mais régulièrement, quand on parle du Tchad, il y a des auditeurs qui disent « Regardez la réaction de l'Union africaine concernant le Tchad, elle ne dit rien, elle laisse faire. » Est-ce que c'est également l'analyse que vous partagez, vous qui êtes sur place? Vous auriez souhaité peut-être que l'Union africaine soit davantage sur la table au moment de la transition du décès du président Déby?
Non, elle ne laisse pas faire dans la mesure où elle a même demandé aux autorités tchadiennes, n'est-ce pas, d'entreprendre une enquête en vue de déterminer, n'est-ce pas, la cause exacte du décès du premier maréchal.
Oui.
Elle ne nous accompagne pas parce que récemment, la Conseil de sécurité s'est réunie. Elle a décidé que les autorités de la transition ne puissent pas se présenter aux élections.
C'est ce qu'elle demande. Voilà, c'est ce que demande l'Union africaine. Après, certains vous diront que ce sont des paroles.
Oui, des paroles, mais quand même, elles valent leur pesant d'or dans la mesure où elles s'adressent à un État, à un gouvernement. Donc, voilà, tout le principe est là.
Bon. Voilà. Merci à vous, Adam. Bonne journée à N'Djamena, dans la capitale tchadienne. Oumed, soyez le bienvenu. Bonjour.
Merci. Bonjour, Juan Gomez. Bonjour à tous les auditeurs de Radio France Internationale, en particulier ceux qui nous écoutent en Afrique. Je rebondis tout de suite sur ce que disait l'intervenant tchadien.
Oui.
Je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'il disait. L'Union africaine est bien plus clémente avec le Tchad qu'avec le Mali, où il y a eu un coup d'État comme au Tchad, encore moins avec le Burkina Faso. Sans oublier la Guinée, où les militaires sont au pouvoir.
Donc il y a donc un deux poids, deux mesures, alors?
Absolument, deux poids, deux mesures. Le Tchad bénéficie d'une bienveillante attention de l'Union africaine, parce que l'ancienne puissance coloniale aussi, est-ce qu'on joue le jeu de la France? Je n'en sais rien, il appartient aux Africains.
On ne va pas parler que du Tchad, mais globalement, votre bilan, à vous entendre, comme ça, rapidement, je dirais qu'il est négatif aussi.
Non, le temps est trop court. Je reviens, l'initiative, l'intention était très très bonne en 1963, le 25 mai 1963 à Addis Abeba. Les dirigeants de l'époque étaient animés d'une très grande volonté pour l'Afrique en créant d'autant ce continent dont les pays sont fraîchement indépendants d'un instrument capable d'unir et de bâtir une Afrique unie avec des projets et plein d'ambitions qui sont parfaitement louables, contrairement à ce que l'on pense, et qui consiste d'abord à permettre aux autres pays encore sous le joug colonial d'accéder à leur souveraineté, ensuite également de lutter contre l'apartheid en Afrique du Sud.
Effectivement.
Je pense que l'organisation de l'unité africaine a réussi sa mission.
Effectivement, sur ces deux points, vous avez raison, décolonisation et fin de l'apartheid, c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure à un auditeur qui visiblement n'avait pas l'air convaincu. Oumed, je suis obligé de vous interrompre, mais vous savez quoi, on revient demain, et demain c'est vendredi, c'est la libre antenne, c'est donc l'auditeur qui choisit, vous commentez l'actualité de votre choix, et si vous le souhaitez, bien évidemment, nous prolongerons ce débat sur la pertinence, l'efficacité de l'Union africaine. Caroline Paré est de retour. Bonjour Caroline.
Rebonjour Juan.
On vous retrouve donc dans 10 minutes, comme tous les matins, Priorité Santé. De quoi parlez-vous ?
On va parler du sommeil, des insomnies, dormir, hein, ce besoin fondamental. On va s'intéresser aux différents troubles du sommeil, les conditions favorables à l'endormissement, à l'inverse, les facteurs qui perturbent, qui empêchent la récupération. On va parler aussi, bien sûr, des conséquences des troubles du sommeil pour notre santé, la concentration, la mémoire, la baisse de vigilance et même le surpoids. Et comme tous les jours, répondre aux auditeurs en direct.
À tout à l'heure, bonne émission.